Europe 1, il est 9h, un nouveau journal, Hélène Zélani.
Il y aura forcément une dose de contrôle continu. La question, c'est de définir jusqu'à quel point, où est-ce que nous mettons le curseur, et il faut que les règles du jeu soient connues le plus possible à l'avance.
Forcément une dose de contrôle continu au bac pour les terminales, annonce de Jean-Michel Blanquer ce matin sur Europe 1. Le ministre de l'Éducation annoncera sa décision en fin de semaine. La France manque de respirateurs. Le seul fabricant en France réfléchit à un partenariat avec le constructeur auto PSA.
C'est une activité indispensable, vitale aujourd'hui. Donc là, à partir du moment où les conditions sanitaires maximales sont assurées, c'est évident que nous sommes pour.
Combien de victimes du Covid-19 en Chine? 3300 officiellement, sans doute beaucoup plus. Les médias locaux remettent en question les annonces gouvernementales. Nous serons à Pékin dans ce journal. Et puis, nous verrons que le confinement, c'est bien plus facile à vivre quand on a un vrai chef à la maison.
C'est vrai qu'un gratin fait par Stéphane et un gratin fait par moi, même si j'adore cuisiner, ça va pas être le même ressenti à la sortie, quoi. Donc la différence, c'est là quand même.
Et juste après ce journal, Mathieu.
Nous allons parler d'un sujet difficile, la mort. Le deuil, sujet extrêmement difficile mais qui vous concerne peut-être dans cette crise du coronavirus, avec l'impossibilité notamment de dire adieu, de se rendre à des funérailles. Appelez-nous au 3921, écrivez sur le hashtag Radio Ouverte. Nous recevons Tanguy Châtel, sociologue, spécialiste de la fin de vie et du deuil. Il est 9h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la question que se posent de très nombreux parents. Que va-t-il se passer pour le bac 2020? Jean-Michel Blanquer était l'invité d'Europe 1. Il y aura une dose de contrôle continu. Décision en fin de semaine. Écoutez le ministre de l'Éducation.
J'ai quelques points de repère. Le premier d'entre eux, c'est oui, il y aura un baccalauréat. Donc ça, c'est un premier élément. Donc mon premier objectif, c'est de garantir à tous les élèves de terminale qu'ils ne soient pas lésés, qu'ils ne perdent pas une année et qu'ils puissent passer un baccalauréat. Mon deuxième point de repère, c'est d'en garantir le niveau, et d'où l'importance de tout ce que nous faisons actuellement et du travail qui est demandé aux élèves de terminale, y compris dans la période actuelle. Et puis en troisième lieu, ce qui me paraît très important, c'est qu'on puisse avoir un vrai mois de juin en matière de cours.
Si on va vers un confinement prolongé, comment en un mois préparer les examens, tant du côté de l'enseignement que des élèves? C'est un risque que vous prenez?
Non, c'est pour cela qu'il y aura forcément une dose de contrôle continu. La question, c'est de définir jusqu'à quel point, où est-ce que nous mettons le curseur, et il faut que les règles du jeu soient connues le plus possible à l'avance. Je donnerai la formule à laquelle nous arrivons à la fin de cette semaine, mais en ayant vraiment été à l'écoute de tous, mais avec, je vous le dis, comme point de repère de garantir que nos élèves de terminale ne seront pas lésés.
Le ministre de l'Éducation au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Jean-Michel Blanquer assure aussi que les vacances d'été seront maintenues avec des colos éducatives et des rattrapages sur la date de reprise de l'école pour tous les élèves. Le scénario privilégié reste le 4 mai, mais cela dépendra de la décision des autorités sanitaires. 1 milliard de masques commandés, les lits affectés à la réanimation multipliés par 3 pour atteindre 14 000, 80 000 tests par jour d'ici la fin avril, plan de bataille du gouvernement qui parallèlement poursuit les transferts de malades pour désengorger les hôpitaux du Grand Est.
Hier, 359 personnes sont entrées en réanimation dans toute la France. Chiffre qui, selon le directeur général de la Santé, devrait baisser d'ici à la fin de semaine si les mesures de confinement et les gestes barrières ont été respectés.
Et face à l'épidémie qui ne cesse de s'aggraver et aux besoins des hôpitaux, les fabricants de masques intensifient leur production. Et pareil pour les respirateurs, indispensables dans les services de réanimation, des partenariats pourraient être noués avec le secteur automobile. Précision d'Aurélien Fleury.
Il n'y a qu'un seul producteur de ventilateurs de réanimation en France, c'est le groupe Air Liquide, dont la filiale Santé produit sur son site d'Antony dans les Hauts-de-Seine 500 respirateurs par mois pour les hôpitaux. Cette production est en train d'être doublée, elle sera triplée en avril et quadruplée en mai. Les équipes d'Air Liquide sont aussi mobilisées jour et nuit, 7 jours sur 7, sur une cinquantaine de chantiers pour accroître la capacité de stockage en air et en oxygène des hôpitaux. L'entreprise produit également des bouteilles d'oxygène utilisées lors de transports de patients d'un hôpital à un autre. Et puis un partenariat est à l'étude avec PSA. Le constructeur automobile envisage de mettre en place un atelier pour assembler les pièces des respirateurs, selon Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA.
On ne sait pas encore si c'est à l'usine de Poissy ou c'est chez un sous-traitant. Et là, on dit, nous, banco, bien sûr que ça, c'est une activité indispensable, vitale aujourd'hui. Donc là, à partir du moment où les conditions sanitaires maximales sont assurées, c'est évident que nous sommes pour.
Chez PSA, pas question, en revanche, de reprendre la production automobile. Le site de Valenciennes devait progressivement rouvrir à partir d'aujourd'hui. La direction a finalement dû reculer devant l'hostilité des salariés.
On parle beaucoup de la chlorhydrine. Les autorités sanitaires de Nouvelle-Aquitaine lancent l'alerte sur des cas de toxicité cardiaque. Ça concerne des malades qui en ont pris en automédication. C'est l'inquiétude pour le chanteur Christophe, âgé de 74 ans. Il est hospitalisé en réanimation à Paris pour insuffisance respiratoire. Selon son entourage, qui ne confirme pas qu'il souffre du Covid-19, son état est stable. Notez aussi que 3 syndicats de chauffeurs routiers appellent au droit de retrait à partir d'aujourd'hui en cas de manquement aux mesures de protection sanitaire. Hier, c'était la concrétisation du pont aérien entre la Chine et la France pour faire venir du matériel médical. Premier avion cargo d'Air France qui a rapporté de Shanghai près de 100 tonnes de matériel médical, dont 5,5 millions de masques.
La Chine où, officiellement, le Covid-19 a fait 3300 morts. Mais pour beaucoup de médecins, c'est un chiffre bien en dessous de la réalité. Le professeur Karine Lacombe le disait d'ailleurs dans le journal de 8 heures.
Oui, c'est difficile à croire quand on voit ce qui se passe en Italie ou en Espagne. Interrogation aussi des médias locaux, au vu de certains éléments très probants. Sébastien Lebelzik est le correspondant d'Europe 1 à Pékin.
C'est un des comptes macabres auquel s'est plié le journal chinois Caixin. Selon lui, plus de 6500 urnes ont été livrées à la ville de Wuhan ces deux dernières semaines pour recueillir les cendres des victimes du Covid-19. 6500, c'est plus de deux fois le nombre de morts officiellement recensés dans tout le pays. Le journal montre également les longues files d'attente, jusqu'à 200 mètres, des familles venues récupérer les cendres et les certificats de décès de leurs proches. Des photos abondamment reprises sur les réseaux sociaux où beaucoup s'interrogent ici sur le véritable bilan de cette épidémie qui aurait débuté dès le mois de novembre, voire même le mois de septembre, au moment de la livraison de milliers d'urnes funéraires supplémentaires à Wuhan fin 2019. Beaucoup de victimes n'ont en effet pas été hospitalisées ni même recensées par les autorités qui veulent aujourd'hui tourner la page et mettre l'accent sur la reprise du travail. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Les États-Unis sont confrontés à la gravité de l'épidémie. Le pays compte aujourd'hui le plus de cas au monde. Selon les projections, le bilan final pourrait atteindre 100 à 200 000 morts. En Grande-Bretagne, pessimisme des autorités sanitaires. La population ne retrouvera pas de vie normale avant 6 mois. En Allemagne, les groupes Adidas et H&M ont annoncé qu'ils ne voulaient plus payer les loyers de leurs magasins fermés. Et puis en Nouvelle-Zélande, un site internet créé par la police pour signaler les violations du confinement a rencontré tellement de succès qu'il a planté quelques heures après sa mise en ligne.
Au 14e jour de confinement, et surtout si on continue à travailler, pas facile d'avoir de l'imagination pour les repas à midi ou le soir.
Oui, vous imaginez la chance de ceux qui vivent avec un chef, un vrai, un pro. C'est tous les jours la fête à l'heure du repas. Pierre Arbulot.
Risotto d'asperges, poitrine de cochon à la broche, gratin de pommes de terre. Ce n'est pas le menu d'un restaurant. C'est un dîner classique depuis 15 jours pour Sylviane Buron. Son mari, Stéphane, a 2 étoiles au guide Michelin.
C'est vrai qu'un gratin fait par Stéphane et un gratin fait par moi, même si j'adore cuisiner, ça ne va pas être le même ressenti à la sortie. Donc la différence est là quand même.
Avant le confinement, le chef ne s'occupait jamais des repas à la maison. Il a carrément découvert sa cuisine.
C'est-à-dire qu'il me disait où sont les poêles, où sont les casseroles. Tu as... Alors je dis oui, j'ai tout ça. Viens, je vais te faire voir. Donc il a découvert la cuisine. Il s'est dit mais on est très très bien équipés. Je lui dis mais oui, effectivement, nous sommes très bien équipés.
Pareil pour Guillaume Goupil, lui aussi étoilé. Il profite de la fermeture de son restaurant gastronomique pour essayer des nouvelles recettes avec sa compagne Rebecca.
En faisant du jardinage, je suis tombé il y a quelques jours sur un gros endroit avec beaucoup d'orties. On en a fait une soupe. Et une autre partie qu'on a cuit comme des épinards et qu'on a mis dans des ramequins avec un petit œuf cocotte.
C'était absolument fumé. Délicieux, c'était un régal.
Effet garanti.
Ah bah oui, encore plus amoureuse.
La chance, hein, vous vous dites, c'est parce que vous n'imaginez pas la quantité de sport à faire à côté pour garder la vie.
Dommage, j'ai pas d'ortie devant chez moi.
Je vous en apporterai si j'étais pas confiné, j'en ai plein, plein.
Et pour éliminer les repas trop riches, pourquoi ne pas suivre l'exemple de ce couple sud-africain qui a couru un marathon sur le balcon de son appartement à Dubaï, 2100 allers-retours en un peu plus de 5 heures. Leur fille de 10 ans gérait les ravitaillements. Le couple veut maintenant organiser une grande course pour tous ceux qui ont besoin de se dégourdir les jambes.
Mais ça va finalement avec le sujet précédent. Donc imaginez ce chef qui découvre sa cuisine. Puis ensuite, il faut bien éliminer. Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 9h en direct des studios d'Europe 1. Hélène est la dernière encore sur place. Toute la rédaction est en télétravail. Tiens, il y en a une qui a l'habitude du télétravail, si j'ose dire, à 9h09. C'est Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Et on va vous retrouver désormais après le journal de 9h tous les matins pour le rendez-vous à la ferme. Vous êtes toujours chez vous à Boissey en Haute-Loire et c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes de retour avec des idées pour occuper nos journées et puis peut-être donner un petit coup de pouce aux hirondelles. Vous nous expliquez ce matin comment construire un nid pour ces oiseaux qui reviennent de leur migration.
Oui, pour donner un petit coup de pouce aux hirondelles des fenêtres qui déferlent en ce moment, mais qui sont néanmoins en forte régression avec une perte ahurissante de 84% de leurs effectifs en 10 ans, due à la raréfaction des insectes dont elles se nourrissent, mais aussi à la destruction de leur nid d'une année sur l'autre. Alors voilà pourquoi je vous propose, Mathieu, de construire un nid. Prenez une planchette ce matin de 30 cm par 15 et un saladier que vous disposerez dessus. Et en dessous du saladier, c'est facile, pour le soutenir, vous avez qu'à visser 5 vis en bois.
Un saladier qui va servir de moule pour faire le nid, c'est ça Fanny ?
C'est ça, parfaitement Mathieu, et vous n'avez qu'à badigeonner la partie basse extérieure du saladier d'un mélange de plâtre et d'argile blanche, et si vous avez aussi, dans l'idéal, quelques brindilles ou de la paille, comme le font les hirondelles elles-mêmes, cela permettra de mieux colmater l'ensemble, et pas besoin de s'appliquer, surtout pas, plus il y a d'irrégularité, plus ça ressemble à un nid naturel.
Et on n'oublie pas de faire une petite entrée ? Oui.
La petite entrée de 6 cm à peu près, et une fois que tout est sec, vous faites glisser délicatement le saladier et votre nid est prêt à être accroché avec des vis-chevilles bien à l'abri des intempéries. Et à partir de là, Mathieu, soyez patient, observez discrètement à distance pour donner à une hirondelle des fenêtres toutes les chances de venir s'y installer.
Amis bricoleurs, on va y aller, hein. Est-ce qu'on a le choix ? Je veux bien trouver une petite planche, un bout de planche dans mon garage et on va occuper les enfants ainsi. Toutes les mesures de ce tuto hirondelle avec des illustrations, hein. On en a besoin. C'est à retrouver sur europe1.fr. Merci Fanny Agostini. On va vous retrouver désormais tous les matins à 6h25 et juste après le journal de 9h sur Europe 1. La radio ouverte, 9h11. Europe 1. Pas plus de 20 personnes à un enterrement. Comment c'est possible ? Je repense à ce que me disait le maire de Cannes vendredi matin. Il a choisi d'équiper justement les familles en masques, en gants pour qu'elles puissent assister aux enterrements. Comment vivre la mort et le deuil dans ce contexte du confinement ? On va en parler dans un tout petit instant. N'hésitez pas à nous appeler au 3921. Comme je dois m'excuser, après le journal, Laurent Cabrol était là en liaison depuis le Tarn et c'est moi qui ai eu une petite absence. Laurent Cabrol, vous êtes avec nous pour la météo, je vous demande pardon.
Vous êtes tout excusé, mais je voulais quand même dire à nos amis qu'il y a du nouveau en matière de météo, je peux vous dire que ça neige. Hein. Alors là, c'est assez surprenant parce que les chutes de neige sont très nombreuses sur un grand quart sud-ouest de la France. Nous avons des départements comme la Vienne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Vienne, le Lot-et-Garonne, qui sont des départements où les chutes de neige ne sont pas très importantes mais nombreuses, et elles sont surtout très localisées autour de villes comme Échiré, comme Jarnac, comme Vienne. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à des chutes de neige aussi nombreuses. Alors elles vont concerner aussi dans l'après-midi la région Rhône-Alpes, la Côte d'Azur et la Corse probablement, ou en tout cas il pleuvra dans ces régions, comme il pleuvra sur l'Occitanie dans l'après-midi après le passage des Jeux de ce matin, et il pleuvra également sur le Poitou-Charentes et le Limousin. Et puis des régions où il ne pleuvra pas, c'est-à-dire un soleil ou un temps lumineux, la vallée de la Loire, le centre, la Normandie, la région parisienne, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace et Berry. Je voudrais dire que le vent partout en France est un vent assez fort, 60 km/h, qui vient du nord-est, et donc il est froid, et donc les températures entre 9 et 13 degrés sous abri sont les températures à ne pas prendre trop au sérieux parce que franchement elles sont très basses, mais après tout on est à la maison, donc on ferme les fenêtres et ça ira mieux.
Et oui, et ceux qui doivent rouler vont être prudents, évidemment, ceux dont on a besoin, je pense aux conducteurs routiers en particulier en ce moment. Merci mon cher Laurent Cabrol, vous êtes sur Europe 1, il est 9h15.
Mathieu Béliard.
Place au débat, à la discussion, laissez-moi accueillir Tanguy Châtel qui est en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Tanguy Châtel.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la fin de vie et du deuil. Je voulais qu'on puisse alors échanger, c'est peut-être pas un exercice de questions-réponses comme on l'a d'habitude, échanger sur cette question si difficile du deuil, parce que nous, il faut que l'on questionne aussi notre rôle de média à annoncer des morts tous les jours. Ces morts ne sont pas que des chiffres et les conditions du deuil sont rendues particulièrement difficile par le confinement. Quand on ne peut pas être à plus de 20, par exemple, pour une cérémonie funéraire, Tanguy Châtel, ce sera ma première question, on peut quand même vivre son deuil, accompagner les défunts ?
Vous avez raison, les morts ne sont pas que des chiffres, il ne faut pas l'oublier dans le contexte actuel. Derrière chaque décès, il y a des familles entières qui sont concernées. Les restrictions gouvernementales liées à des impératifs sanitaires de 20 personnes maximum pour les funérailles frustrent un certain nombre de personnes, évidemment. On a eu le témoignage cette semaine de Bénédicte Pétel, qui est députée et qui a enterré son père à l'occasion du Covid et qui a trouvé une solution, c'était de pouvoir filmer la cérémonie pour que ses proches puissent y assister. Voilà, donc il faut aujourd'hui, et je m'y emploie avec une association qui s'appelle Mieux Traverser le Deuil, généraliser ces solutions de mise en ligne de ressources pour pouvoir au moins à distance, dans cette période de confinement, s'associer à une famille.
Mais ce que vous dites, Tanguy Châtel, je me permets de vous couper, parce qu'on a ce débat-là tous les jours, par exemple, pour des cadres qui sont en train de télétravailler en ce moment de chez eux. On a tous progressé. On est tous capables de faire des apéros Facebook. Il y a un saut technologique dans la population qui doit aussi se retrouver dans les rites funéraires.
Vous avez raison, il est à l'œuvre, tout le monde a changé ses habitudes de vie, et la vie, la mort, le décès fait partie de la vie aussi, et donc dans ce temps de confinement, il est nécessaire de mobiliser des outils numériques à distance pour faire de ce temps social un temps qui soit vécu par tous.
Jean-Michel est en ligne avec nous et je l'en remercie parce que c'est pas forcément évident d'appeler la radio le 3921 pour parler de ces questions-là. Jean-Michel, vous êtes à Angers, je crois, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous écoutons avec Tanguy Châtel votre témoignage ce matin.
Bah écoutez, ma maman est décédée le premier mardi. Alors, je précise qu'elle n'est pas décédée du virus. Elle a fait un AVC le vendredi précédent et donc le mardi matin, on m'a prévenu qu'elle était décédée. Deux de mes enfants étaient venus au week-end. Ils pouvaient encore se déplacer. Et donc, on a entamé les démarches pour organiser la sépulture. Évidemment, on nous a dit tout de suite que on pourrait pas être plus de 20 à cette sépulture.
D'abord, Jean-Michel, avant, parce que je sais que j'ai votre fiche sous les yeux, je sais qu'il y a une solution familiale qui a été trouvée, mais d'abord, quand on vous dit que vous devrez limiter les invitations aux derniers hommages rendus à votre maman, votre réaction sur le moment, vous comprenez vous...
Oui, évidemment. Évidemment, mais si vous voulez, ma maman était quelqu'un de très impliqué dans le village où elle a vécu toute sa vie. Elle avait 95 ans, elle était très pratiquante, très croyante, et on aurait voulu qu'elle soit accompagnée comme elle le méritait. Et là, on s'est dit, non, on va pas pouvoir, quoi. On a préparé effectivement une célébration religieuse avec quelqu'un de la paroisse du village. Tout en sachant que ça serait quelque chose de très une assemblée très contrainte.
Tanguy Châtel.
Oui. Ce que dit Jean-Michel, déjà, c'est important. Ça rappelle qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent des mêmes causes qu'il y a 6 semaines ou qu'il y a 2 mois. C'est pas le Covid qui pose le plus de problèmes en termes de décès, c'est le confinement. Donc, il y a toutes les personnes qui décèdent chaque mois qui, aujourd'hui, sont contraintes qui imposent à leur famille, du coup, des obsèques confinés. Et c'est ça qui peut être douloureux. Donc je suis impatient de voir quelle solution familiale Jean-Michel aura trouvé, parce qu'il faut essayer de multiplier l'inventivité et de recourir aux moyens qui nous le permettent en ce moment.
Jean-Michel, vous avez fait le choix, est-ce qu'il y en avait d'autres? Alors, possibles choix, des réseaux sociaux?
Ouais, c'est-à-dire que la nuit suivante, j'arrivais pas à dormir, et donc j'ai posté une photo de ma maman et moi, que l'on avait prise quelques jours avant, puisqu'on venait de fêter ses 95 ans au restaurant, et en disant que que j'étais vraiment désolé, quoi, de pas pouvoir l'accompagner autrement, que un de mes fils même ne pourrait pas être présent parce qu'il habite sur Lyon et il se sentait pas bien. À la suite de quoi, il y a eu énormément de réactions. Bon, moi, je poste très peu sur Facebook. Je marche sur Stel tous les ans, et à cette occasion-là, j'ai créé un petit réseau. Bref. Et donc, à la suite de quoi, une personne m'a dit, moi, je serai à vos côtés vendredi prochain, j'allumerai une bougie pendant la sépulture. À la suite de ça, le jeudi, j'ai eu plein de messages.
Ça a été repris.
Ou indirects, disant, nous aussi, à 11h, vendredi, on allumera notre bougie. Et effectivement, le vendredi, j'ai reçu, je sais pas, peut-être une cinquantaine de bougies et qui viennent de partout. J'ai marché vers Compostelle avec des Norvégiens qui habitent là-haut, au pays Sami, en Laponie. Ils m'ont envoyé leurs bougies, des Canadiens m'ont envoyé leurs bougies, et puis de toute la France, puisqu'on a un réseau, ma femme fait partie d'une grande famille, et elle a des frères et sœurs un peu partout en France, on a reçu des bougies.
Vous avez pu, je demande à Tanguy Châtel si ça vaut, si ça marche, est-ce que ce genre d'initiative suffit à rassembler dans le deuil ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le deuil, on est tous égaux. C'est sans doute l'expérience de vie qui nous rassemble tous au même niveau. On n'est pas tous égaux devant la maladie, on n'est pas tous égaux devant le travail, on n'est pas tous égaux devant la précarité. Mais devant le deuil, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on vive seul ou qu'on soit à plusieurs, on est tous très affectés. Donc, c'est un point qui nous rassemble tous. Et c'est ça qui peut expliquer la solidarité qui se manifeste, y compris par les réseaux sociaux. C'est qu'on est tous touchés par la mort de quelqu'un d'autre parce que ça pourrait être la nôtre et pas de manière totalement abstraite. Donc oui, bien sûr, il faut se servir des outils actuels et je ne suis pas surpris de voir l'élan de sympathie et de solidarité qui se manifeste. C'est pour ça qu'il faut trouver en ce moment particulièrement, des réponses qui soient collectives et qui soient solidaires.
Jean-Michel, je vous garde en ligne, je voudrais qu'on réagisse, qu'on écoute ensemble dans ma voix parce qu'elle a souhaité ne pas intervenir à l'antenne. Laetitia qui a 43 ans, qui est parisienne et qui nous dit « Ma mère a été hospitalisée avant le confinement. Elle avait été admise en réanimation avec mon frère. On a dû choisir qui resterait avec elle jusqu'au dernier moment. On a choisi la crémation et aucune personne ne sera présente. On n'a pas le droit de se voir. On sent frustration, c'est peut-être un euphémisme dans le message de Laetitia. »
Vous interrogez qui ?
Vous, Tanguy Châtel, pardon. c'est la distance qui joue aussi, bien sûr.
Oui, ce que ça permet de voir, c'est que déjà, chaque décès mérite au moins une, sinon plusieurs personnes qui soient présentes, parce qu'à chaque fois qu'on enterre quelqu'un, depuis la nuit des temps, l'humanité se sent directement concernée. Ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur le décès et le deuil. Les conditions de fin de vie en ce moment sont de nature à rendre plus difficiles les temps qui vont suivre, les temps de deuil. Donc, ne pas pouvoir aller voir son proche à l'hôpital, ne pas pouvoir organiser la cérémonie qu'on souhaite. Tout ça sont des facteurs qui vont aggraver le deuil qui va s'en suivre. Et le fait de se retrouver ensuite confiné, pas pouvoir se prendre dans les bras au sein de la même famille, ça aussi c'est quelque chose qui va être de nature aggravante.
Mais c'est ce que j'allais vous demander, je me permets de vous couper Tanguy Châtel, hein.
Allez-y,
mais parce qu'il y a l'importance et on a tous ressenti ce besoin de saluer la mémoire d'une personne disparue. Mais dans les funérailles, il y a aussi le fait qu'on va se retrouver, Jean-Michel nous parlait de la famille qui vient de partout dans le monde, on va se retrouver, on va se réconforter et ça on ne l'a plus.
Eh ben d'habitude, on peut se retrouver à 50 ou à 100, et là, on va se retrouver péniblement à 20, et on va la suite va être vécue à travers les réseaux sociaux. Voyez, donc c'est ce temps de rassemblement qui est un temps de reconstruction, de redressement vers la vie, de relèvement vers la vie, qui risque de manquer. En temps normal, les gens traversent leur deuil bon gré mal gré, et ça fait pas tant de débat que ça. Mais les circonstances actuelles de confinement sont de nature à générer en nombre important des deuils qui, par la suite, vont se révéler compliqués, voire pathologiques, et vont nécessiter des solutions de nature un peu différente, peut-être thérapeutiques. Donc il nous faut aujourd'hui agir vite pour anticiper ces risques sanitaires, hein, psychiques ou physiques ou sociaux.
Je ne voulais pas raccrocher avec Jean-Michel. Jean-Michel, vous êtes toujours là ?
Oui,
depuis Angers, Jean-Michel, au 39-21, deux semaines après, je suis obligé de vous poser la question, en fait, est-ce que ça marche, finalement, cet élan de solidarité, ces bougies qui vous ont été envoyées via Facebook, dans votre travail de deuil personnel ?
Je peux vous assurer que ça marchait déjà le jour de la célébration. On a eu une très belle célébration, on était une douzaine, 9 plus 3 d'équipes paroissiales, et ça a été, je pense, que une aussi belle célébration que si l'église du village avait été pleine. Et on s'est retrouvés après avec mes garçons à la maison avant qu'ils repartent, puisqu'il fallait qu'ils regagnent leur domicile. Et eux aussi ont eu le même sentiment. On avait vécu une belle célébration et on en garde un très beau souvenir. Autant qu'on peut garder un
bien
très
sûr,
bon souvenir de célébration, mais on a eu le sentiment que l'on avait accompagné, comme elle le méritait, ma maman, tout en ayant promis à tout le monde, parce que c'est aussi la suite de l'idée, c'est que en septembre, en octobre, on verra ce qui va se passer après. On a bien l'intention de refaire une célébration avec tous ceux qui n'ont pas pu être autour de nous, et qui là pourront venir. Alors, je ne pense pas que les Norvégiens viendront nous accompagner. Et de faire cette célébration avec le prêtre et ensuite de faire un énorme pique-nique où on va pouvoir échanger ensemble et se retrouver.
Vous citiez le prêtre justement, Jean-Michel, et je vous remercie de votre témoignage en direct. Je reçois un email, je me permets de le lire, hein, de Monseigneur Mathieu Rouget, qui est l'évêque de Nanterre et qui était mon invité la semaine dernière. Il nous dit deux choses. L'Église est vraiment attentive à pouvoir maintenir les obsèques malgré tout ce qui pourrait s'y opposer. Et deux, comme pour le reste, ce confinement peut susciter aussi de belles choses, diffusion par les réseaux des obsèques intimes, prière à distance grâce au livret liturgique. Le rôle des institutions religieuses, j'en terminerai par là, Tanguy Châtel, ces institutions, elles ont un rôle essentiel.
Oui, de tout temps, autour de la fin de vie, autour du deuil, même si les gens ne sont pas toujours pratiquants dans leur vie ordinaire, au moment des obsèques, ils y reviennent d'une certaine manière, même pour un certain temps. Donc, bien sûr, la question de la mort nous rattrape toujours sous l'angle de la religion, pas simplement sous l'angle de la vie après la mort, mais aussi sous l'angle du sens de l'existence et du rassemblement. Donc, il doit être préservé, c'est pas pour rien que le président de la République a consulté les principales autorités religieuses lundi 23 mars sur ce sujet. Mais ça va au-delà, puisque là, on est sur une mobilisation sociale qui doit nous interpeller individuellement. Vous voyez, donc, il faut essayer de construire ce qu'on essaye de faire avec Mieux traverser son deuil, c'est construire des solutions pour les obsèques qui ensuite se déclinent avec un suivi au moment du deuil, tout ça en ligne, en mobilisant, c'est ce qu'on a commencé à faire, toutes les associations de soins palliatifs, ça représente 6000 bénévoles capables de répondre en ligne, par chat ou par écoute, pour accompagner les personnes. Il faut mobiliser d'une manière vaste les gens qui ont les qualités pour accompagner le deuil, pour éviter que les gens qui y font face ne soient livrés à eux-mêmes en ce moment. Pour ça, je termine par ça parce que c'est important, on a besoin, on fait un appel aux dons, et notamment à la générosité des entreprises, parce qu'il faut monter des outils en moins de 7 jours, parce que c'est pas dans 2 mois qu'il faudra le faire.
On va relayer évidemment sur Europe1.fr après cet échange. Merci Tanguy Châtel d'avoir répondu à nos auditeurs, d'avoir pu détailler un peu ces problématiques. Sociologue, spécialiste de la fin de vie et du deuil, je remercie particulièrement, parce que c'était pas évident non plus, Laetitia et Jean-Michel qui nous ont appelés pour témoigner au 39-21. Merci à toutes et tous pour vos nombreux messages depuis tôt ce matin. La matinale de la radio ouverte revient évidemment à 6h, mais nos programmes sont toujours à votre service, à votre écoute, avec Raphaël Duchemin et Pierre de Villeneuve à midi, Nathalie Lévy à 18h, toutes nos émissions évidemment. Encore une fois 39-21 et le hashtag Radio Ouverte pour intervenir sur nos antennes. Tout de suite Philippe Vandel pour Culture Média, je vous retrouve demain matin à 6h, d'ici là le monde aura changé, on va vous le raconter.